Alors, j'ai parlé tout à l'heure des théâtres, de banlieue. Il faut parler maintenant d'autre chose que de Paris. Hein, nous avons parlé de Paris, de la banlieue, il faut maintenant parler de la décentralisation. Le ministère de la Culture, depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est pas récent, fait un gros effort pour décentraliser la culture. Alors, comment ça se passe en province? En province, dans chaque grande ville, hein, mettons dans chaque préfecture, et il peut y en avoir également dans les sous-préfectures, on trouve des troupes permanentes privées. Hein. Le théâtre de Marseille, le théâtre de Strasbourg, le théâtre de Lyon, le théâtre de Bordeaux, etc. Enfin, il y a des troupes qui sont la plupart du temps attachées au théâtre de la ville, hein, du théâtre municipal. Alors ces troupes sont souvent subventionnées par la ville. Elles peuvent également être complètement privées. Enfin, c'est-à-dire que ça fonctionne comme à Paris, hein, des troupes permanentes privées. Alors, ce qui est plus nouveau, ce qui fonctionne depuis une dizaine d'années et qui est très important, parallèlement à ces troupes permanentes, privées et subventionnées, on trouve ce qu'on appelle les centres dramatiques nationaux, hein, qu'on appelle d'ailleurs plutôt par leur sigle CDN, alors qui, eux, sont subventionnés par l'État. Hein, c'est-à-dire que c'est l'État qui a implanté ces troupes, ces centres dramatiques nationaux, dans certaines villes de province. Alors, je n'ai pas malheureusement le chiffre exact, enfin le nombre exact de ces troupes. Il doit y en avoir une 15 ou 20 maintenant en France. Alors, elles sont donc subventionnées et par l'État et par la ville. Alors, comment est-ce que ça se passe? L'État signe un contrat de 3 ans avec des metteurs en scène réputés déjà qu'il implante en province, c'est-à-dire que ce sont des metteurs en scène qui pouvaient travailler autrefois à Paris et qu'on a envoyé en province pour diriger ce centre dramatique. Là, les metteurs en scène recrutent une petite troupe, parce que souvent ils n'ont quand même pas beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas se permettre une troupe importante, c'est-à-dire qu'ils recrutent, mettons, une troupe de 3 ou 4 comédiens, et ensuite, suivant les besoins des créations, des pièces, ils vont recruter pour 3 mois, pour 6 mois, quelques autres comédiens. Et ces centres dramatiques nationaux doivent absolument jouer des créations, c'est-à-dire que ce contrat, en fait, correspond à une aide à la création. Ils doivent jouer des créations. Des créations de textes, j'entends. Également, ces CDN accueillent des troupes d'autres villes de province, c'est-à-dire qu'il y a un courant d'échange entre les centres dramatiques nationaux. Hein. Il y a un système de tournée qui fonctionne, c'est-à-dire qu'un centre dramatique va partir dans 3, 4, 5 ou 6 autres villes. Hein. Il y a un système d'échange comme ça, ce qui permet quand même aux troupes d'être vu par d'autres personnes que les habitants de la ville où ils travaillent. Et puis alors, ce qui donc les caractérise, c'est que c'est une création, c'est un théâtre de recherche, hein, le CDN. Les plus connus des CDN, ce sont le CDN de Strasbourg, le CDN de Toulouse, le CDN de Caen, quoi d'autre, le CDN de Marseille. Alors maintenant, pour continuer à parler de la décentralisation, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour les gens de théâtre et pour d'ailleurs les amateurs de théâtre également, ce sont les festivals. Il y a plusieurs festivals enfin, en France, hein, le festival de Sarlat, le festival de Nancy, plusieurs festivals. Mais le festival qui quand même reste le plus important, le plus réputé, c'est le festival d'Avignon. Festival d'Avignon qui se passe donc à Avignon au mois de juillet, pendant tout le mois de juillet. Alors le festival d'Avignon, c'est le rendez-vous de tous les gens qui ont quelque rapport avec le théâtre. Hein. C'est la consécration de la carrière d'un metteur en scène, d'un acteur ou d'une troupe que de passer au Festival d'Avignon. Enfin, ce n'est pas vraiment une consécration, il y a mieux évidemment, enfin, il faut encore faut-il avoir le succès à Avignon. Mais disons que c'est déjà quelque chose de très important. Alors en fait, le Festival d'Avignon, quand on dit festival, il y a deux festivals. Festival in, festival off, pour parler en anglais malheureusement. Le festival in, c'est un festival qui est subventionné. Le festival off ne l'est pas. Hein. Festival in, il y a une commission, une association plus exactement, d'organisation du Festival d'Avignon, qui va établir un programme pour donc les spectacles qui se donnent et choisir les troupes des troupes déjà connues, des troupes déjà réputées, qui vont assurément donner des bons spectacles. Hein. Alors il s'agit évidemment soit de troupes françaises, soit de troupes étrangères. Tous les ans, on invite un certain nombre de troupes. Par exemple, l'année dernière avait été invité le théâtre Roustavieli de Tbilissi, hein, qui avait donné le Cercle de Craie caucasien. Également, il y avait eu une troupe allemande de danse qui avait été invitée à Avignon. Donc des troupes étrangères, des troupes françaises. Ce festival in se passe dans des lieux extrêmement prestigieux, extrêmement beaux, entre autres la cour du Palais des Papes. Hein, vous avez entendu parler du Palais des Papes, qui est cette forteresse très très belle qui domine Avignon. Et à l'intérieur de la grande cour du palais se donnent des spectacles pour lesquels il peut y avoir 2000 spectateurs. Hein. C'est-à-dire que énormément de monde. Et ce qui caractérise encore ce spectacle, c'est qu'il se passe en plein air, le soir donc tard, à 10h, quand il fait nuit, avec comme décor naturel la façade du Palais des Papes, et souvent des décors évidemment rapportés par les troupes. Bon, j'ai parlé du Palais des Papes, il y a des quantités d'autres lieux qui sont très beaux et dans lesquels peuvent se donner des spectacles, à Avignon, hein, des cloîtres par exemple, le théâtre, enfin, voilà. Donc chaque soir à Avignon, on a le choix entre 10, 15 spectacles intéressants, enfin, qui peuvent apporter beaucoup. Alors donc, ce théâtre, qui passe en festival in est subventionné, les spectacles sont achetés, hein, c'est-à-dire que les comédiens sont payés, bien payés, défrayés de tout frais, c'est-à-dire qu'ils sont nourris et logés également, enfin, les conditions matérielles, disons, sont bonnes. Alors, je n'en dirai pas autant du festival off. Hein. Festival off, eh bien, se passe dans beaucoup d'autres lieux, hein, des cours, des petits théâtres, des caves, très souvent, dans lesquels d'autres troupes, alors des troupes moins importantes, qui n'ont pas été acceptées par le Festival In, viennent jouer. Mais alors là, elles doivent payer cher pour cela, parce qu'il faut payer le lieu, la technique, la location des projecteurs, etc. Et évidemment, dans ces cas-là, les comédiens ne sont pas payés, ou alors ils sont payés par un producteur. Mais disons qu'ils ne sont pas payés par l'État, par l'organisation du Festival d'Avignon. Alors évidemment, pendant le Festival d'Avignon, eh bien, on en parle dans toute la France, hein. On en parle à la radio, on en parle dans les journaux, tous les critiques se déplacent pour Avignon et envoient des comptes rendus tous les jours. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et une troupe qui a eu du succès au Festival d'Avignon n'a plus aucun problème ensuite pour trouver un lieu théâtral à Paris ou pour faire des tournées en France ou à l'étranger. Voilà, alors maintenant il faut parler de quelque chose qui est important également, c'est le café-théâtre. Il y en a 125 à Paris. Café-théâtre, pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Eh bien parce qu'à l'origine, on y buvait, enfin on s'installait pour boire, pour manger de la soupe éventuellement, boire un cocktail, de la sangria, du vin. Et en même temps qu'on consommait, à des petites tables, on regardait un spectacle. Donc de café-théâtre. Ces spectacles se passent la plupart du temps tard le soir, à 10h, dans des toutes petites salles, sans grand confort, donc on peut être assis à des tables comme des tables de café, ou alors assis sur des petits gradins, ou on peut même être assis par terre sur de la moquette ou des tapis. Enfin, ça dépend, mais disons que ce ne sont pas vraiment à l'origine des lieux théâtraux. Alors, ce qui caractérise aussi le café-théâtre, c'est qu'il y a peu de moyens, c'est-à-dire que peu d'argent d'abord à l'origine. Peu d'argent, pourquoi? Mais parce qu'il y a peu de public, puisque ça se passe dans des petits lieux. Et comme il y a peu d'argent, bien évidemment, et puis peu de place, ce sont souvent des spectacles pour un comédien, deux, trois comédiens, mais jamais plus. Hein. Le café-théâtre, c'est le royaume du one-man show, c'est-à-dire du spectacle monté et joué par un seul comédien qui fait tout à la fois. Bon, la plupart du temps, ce sont des créations drôles, mais pas toujours, ça peut être tragique. Hein. Très souvent, quand même, c'est le royaume de l'humour, de la parodie, hein, mais également le royaume de la recherche. Alors, quand même, ce qu'il faut dire sur les cafés-théâtres, c'est qu'ils ont commencé à naître il y a 10 ans à peu près, peut-être 10 ou 15 ans. Hein. Qu'au début, c'est au café-théâtre que se sont exprimées des quantités de jeunes comédiens, que c'était extrêmement intéressant, que le centre de la vie théâtrale de Paris était quasiment dans les cafés-théâtres, mais que malheureusement, ça n'est plus le cas. Hein. La qualité du café-théâtre a énormément baissé. Elle a baissé parce que finalement, n'importe qui s'est dit qu'il était capable de faire du café-théâtre, hein, même des gens qui n'avaient aucune formation de comédien. Et finalement, bon, ben, les spectacles ne sont pas souvent très bons ni très intéressants. Beaucoup de cafés-théâtres maintenant fonctionnent moins bien ou ferment ou donnent des spectacles à la limite de la pornographie. Enfin, ce n'est pas bon. Disons qu'on peut dire que la qualité du café-théâtre est en baisse. Cela dit, ça ne veut rien dire et on peut très bien vous revoir d'ici quelques années une production extrêmement intéressante dans les cafés-théâtres. Bien, alors maintenant nous avons parlé là du théâtre professionnel. Il y a quelque chose qu'il faut quand même indiquer en passant, c'est qu'il y a évidemment des quantités de gens qui font du théâtre autrement que d'une manière professionnelle, hein, et qu'il y a en France, 3 500 troupes amateurs, c'est-à-dire que c'est beaucoup, ce sont des gens qui montent des spectacles, mais qui les jouent quelquefois devant un petit public d'amis, par exemple. Hein. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne travaillent pas sur des scènes, sur les grandes scènes, ou sur les scènes parisiennes, ou d'ailleurs, enfin, ils jouent d'autres lieux, et des gymnases, par exemple, ou des greniers, enfin. Mais il y a un festival d'ailleurs de théâtre amateur tous les ans à Vichy, et ces troupes font souvent de très bons spectacles. Bien, alors maintenant, comment enseigne-t-on le théâtre? C'est-à-dire, comment devient-on comédien ou metteur en scène en France? Comme je l'ai un petit peu indiqué tout à l'heure, d'abord, on ne fait pas obligatoirement une école. Pour être comédien ou metteur en scène, n'importe qui peut se déclarer comédien. Et puis monter un spectacle, le jouer, et si ça marche, tant mieux. Hein. C'est tout à fait possible de ne pas suivre d'enseignement de théâtre ou de mise en scène. D'ailleurs, surtout pour la mise en scène. Néanmoins, il y a quand même quelques écoles. La plus connue, hein, que tout le monde connaît, c'est le Conservatoire d'art dramatique de Paris. Le Conservatoire d'art dramatique, eh bien, on y entre sur concours, un concours difficile, hein, on prend finalement très très peu de personnes, hein, il y a très peu d'élus pour entrer au conservatoire. Et au conservatoire, on suit un enseignement de 3 ans qui est extrêmement divers, dans lequel on travaille aussi bien le répertoire que des improvisations, que le mime, que la danse, que les claquettes, que des quantités d'autres choses. Et alors, à l'issue du conservatoire, les meilleurs comédiens, on travaille également la mise en scène, évidemment, au conservatoire. Et on travaille, il faut encore le dire, sous la direction des plus grands metteurs en scène actuels. Par exemple, Vitez a été très longtemps professeur au conservatoire. Et alors, donc, à l'issue du conservatoire, les meilleurs comédiens, et ceux qui le désirent, évidemment, enfin, ça n'est pas obligatoire, sont embauchés à la Comédie-Française. Alors, autre école dont le niveau est également bon, mais du degré en dessous du conservatoire, c'est là l'école de la rue Blanche. Comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son sigle. Enfin, c'est l'école de la rue Blanche dans laquelle on enseigne aussi bien les techniques d'art dramatique, enfin les techniques de comédien, que les techniques des techniciens du théâtre. Hein. On apprendra également le maquillage, par exemple, ou l'art du costume, ou l'art des éclairages pour le théâtre. Alors à la rue Blanche, on entre également sur concours, un concours qui est difficile aussi, très difficile. Et alors souvent, un comédien qui a fait la rue Blanche, à l'issue de la rue Blanche, passera le concours du conservatoire. Hein, et entrera ensuite au conservatoire. Alors dans ce cas-là, ça fait 6 années d'école de théâtre et donc une formation très solide. Enfin, on enseigne le théâtre dans les conservatoires municipaux, hein, c'est-à-dire dans toutes les grandes villes. Il y a un enseignement du théâtre, hein, qui est donné par les comédiens de la troupe de théâtre de la ville ou par des gens qui se déplacent de Paris. Et alors là, évidemment, c'est à un niveau en dessous, hein, c'est souvent des gens qui sont jeunes, qui ont 15 ans, 14 ans, jusqu'à 16, 17, 18 ans, qui font ces conservatoires, et à l'issue de ces conservatoires, ils reçoivent un prix de sortie. Hein, on peut être, enfin, quelqu'un qui est premier prix du conservatoire de Bordeaux a de grandes chances d'entrer, après avoir passé évidemment le concours, à la rue Blanche ou au conservatoire. Enfin, on enseigne beaucoup de théâtre dans des écoles privées, il y en a beaucoup, beaucoup en France qui s'ouvrent, hein. N'importe quel comédien peut ouvrir une école de théâtre, ça fonctionne plus ou moins bien, enfin il y en a qui ont beaucoup, depuis 50 ans ou 100 ans, qui ont une grande réputation, par exemple le cours Périmonie, qui est connu, hein, qui est très connu, il y en a d'autres. L'école Charles Dullin, par exemple, qui avait été fondée par Charles Dullin, et dans lesquels on reçoit également une formation, une bonne formation. Mais la formation des cours privés ne sert souvent qu'à préparer les concours de la rue Blanche et peut-être même du conservatoire. Alors, puisqu'on est en train de parler de la vie des comédiens, il faut dire qu'un comédien ne travaille pas toujours beaucoup en France, hein. Je vous ai dit que n'importe qui pouvait se déclarer comédien. Donc, souvent, bon, comme quelqu'un jouera dans une pièce et puis ensuite ne trouvera plus de travail ou ne. Enfin, il y a des périodes comme ça d'inaction très importantes dans la vie des comédiens. Alors, dans ces cas-là, les comédiens peuvent s'inscrire au chômage et toucher une allocation de chômage, hein, bien sûr, qui leur permet de vivre, enfin de vivoter. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre rôle. Et alors, très souvent, évidemment, les comédiens complètent par des petits travaux ou alors par de la figuration ou même par un deuxième travail. Voilà. Alors maintenant, revenons de l'autre côté de la scène. Que faire si on veut aller au théâtre? Eh bien, d'abord, il faut choisir son spectacle dans Pariscope ou dans l'Officiel des spectacles, qui sont les deux petits journaux qui paraissent chaque semaine le mercredi à Paris et qui indiquent tout ce qu'on peut faire dans la semaine à Paris. Non seulement évidemment dans le domaine du théâtre, mais dans le domaine du cinéma, dans le domaine des concerts, dans le domaine des expositions, des visites guidées, des sports, des restaurants, enfin. Quoi d'autre? Des cinémathèques, des patinoires, enfin, et même des cabarets. Alors, il faut donc choisir son spectacle, regarder où il se joue, vérifier quel est le jour de relâche. C'est-à-dire le jour de la semaine où les comédiens ne jouent pas, c'est souvent le lundi. De plus en plus, c'est lundi-mardi, 2 jours par semaine, parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'allaient pas tellement au théâtre en début de semaine. Vérifier l'heure du spectacle, habituellement entre 8h30 ou 9h, mais c'est de plus en plus souvent 10 heures au café-théâtre, et même dans beaucoup de théâtres qui programment deux spectacles par soir, un à 8h, 8h30 et un à 10h. C'est-à-dire qu'on sort tard au théâtre en France. Les matinées du dimanche, dans certains théâtres, sont habituellement à 15h. Alors, est-ce qu'il faut réserver ses places à l'avance? Eh bien oui. Oui, s'il s'agit d'un spectacle à la mode, d'une mise en scène, d'un grand metteur en scène, d'une pièce de théâtre qui a eu une excellente critique. Alors dans ces cas-là, il faut réserver ses places à l'avance, par exemple une semaine à l'avance. On peut évidemment réserver par téléphone. À ce moment-là, on va se prendre ses places un quart d'heure avant le spectacle. La plupart du temps, quand même, il n'est pas nécessaire de réserver à l'avance, compte tenu de la crise actuelle du théâtre en France, enfin du fait qu'il y a peu de public, très peu de public par rapport à la production, par rapport au nombre de pièces qui se donnent. Très souvent, d'ailleurs, enfin, on est forcé de constater que pour les petites pièces, dans les petits théâtres de recherche, eh bien, le public est à peu près uniquement composé de critiques, de comédiens, de metteurs en scène qui vont voir leurs œuvres réciproques. Et puis de quelques amateurs quand même, enfin ça n'est pas ouvert sur le grand public. Donc les salles sont souvent presque vides, hein. Il arrive souvent que dans une salle, vous trouviez, enfin une petite salle évidemment, une salle de 100 places, vous trouviez 5, 6 spectateurs, hein. Parfois même, quand une pièce ne marche pas, il n'y a pas de spectateurs du tout. Alors à quoi est due cette désaffection? Mais elle est peut-être due, il faut le reconnaître, au prix élevé des places, environ 50 francs. Et à la qualité inégale des spectacles, et puis évidemment à la concurrence du cinéma et de la télévision, qui donnent des spectacles qui sont plus faciles, qui sont souvent qui montrent plus de choses avec tous les moyens techniques du cinéma et de la télévision, et puis moins, enfin plus faciles à comprendre, hein.